France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier jour dans le Tarn-et-Garonne. Nous avons passé toute la semaine dans ce département d'Occitanie et ce fut riche avec une librairie indépendante dans un petit village qui se bat pour continuer à exister. Le Tracteur Savant à Saint-Antonin-Nobleval avec un musée des maths dans la maison natale de Pierre de Fermat, grand savant du XVIIe siècle, avec encore une plateforme qui vous aide à organiser des vacances éco-responsables. Toutes ces émissions sont disponibles en podcast, bien sûr, si vous les avez manqués. Et aujourd'hui, nous parlons d'une boulangerie pédagogique, projet très original et innovant qui suscite un vif intérêt chez les profs. Ensuite, on lira Village, le partenaire des carnets de campagne. Ce magazine publie un numéro par saison et comme le printemps a commencé, pour ma plus grande joie, eh bien un nouveau village est en kiosque. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Des salles de classe dans une boulangerie. Nous sommes à Saint-Nopharie, tout près de Montauban. La boulangerie chez Lucien, gros établissement qui fait travailler 30 personnes, va ouvrir en septembre prochain une boulangerie pédagogique. Et c'est une première en France. Un espace pour montrer aux enfants de maternelle, d'élémentaire et du collège comment on fabrique du pain, du grain de blé à la baguette. Bonjour Christophe Passedat.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes maître artisan boulanger-pâtissier, président du syndicat boulanger du Tarn-et-Garonne. Vous avez gagné deux fois, je le précise, le prix du meilleur croissant d'Occitanie en 2019 et 2022. Et c'est vous, le patron de chez Lucien. Comment est née, dites-moi, au tout départ, cette idée de boulangerie pédagogique ?
Ah, l'idée est venue tout simplement à l'habitude qu'ont les artisans boulangers d'accepter de recevoir nos écoles maternelles primaires dans nos laboratoires pour montrer aux enfants et les sensibiliser sur l'artisanat et la boulangerie plus précisément. Et aussi, l'objectif de ce projet-là, c'était d'inviter les classes à venir faire cours en entreprise. Et c'est là que le projet est assez atypique, dans le sens où ce n'est pas une simple visite, mais aujourd'hui on va pouvoir faire classe toute une journée entière, et ça peut être suivi en pluriannuel d'un projet pédagogique de tout niveau. Et tout ça se passe au sein de l'entreprise.
Et ça n'existait pas nulle part ailleurs en France.
Alors, référencé par l'éducation nationale, il existe quelques fermes pédagogiques qui ont un fournil, mais une boulangerie attitrée qui réalise cela, non, ça n'existait pas en France.
Je parlais du grain de blé tout à l'heure. Est-ce que vous avez un moulin pour montrer le processus dans son intégralité ?
Effectivement, nous disposons d'une salle de classe attitrée qui fait à peu près 90 mètres carrés, située à l'arrière de notre boulangerie, avec assez d'espace pour pouvoir recevoir l'autobus et les élèves à l'intérieur et leurs accompagnants. Et l'objectif était de montrer toute la filière et pas uniquement la boulangerie, donc du grain de blé que nous produisons nous-mêmes sur nos terres familiales, dans le Tarn-et-Garonne, au-dessus de Caussade, à Montalza, exactement. Et nous souhaitions bien sûr montrer dans ce petit moulin comment on fabrique du grain de blé jusqu'à la farine.
Pourquoi est-ce qu'il est important, Christophe, de montrer aux enfants comment on fabrique du pain, et même à ceux et celles qui n'en feront pas leur métier, d'ailleurs ?
Aujourd'hui, il est très important de montrer dans une vie où tout va vite, où tout zappe vite, et à l'époque des fast-food et des drives où l'on commande et 30 secondes après où on est servi, que faire de bonnes choses prend du temps. Un pain au levain met du temps à se développer. La partie enzymatique et toute la biologie qui se fait autour de ce beau métier, de ce beau produit qu'est le pain, y compris la viennoiserie et d'autres produits, prend du temps. Et il est très important d'éduquer les jeunes, les moins jeunes aussi, à ce que un bon produit met du temps à être fabriqué. Et après une journée, une demi-journée ou quelques heures de découverte, on arrive à les toucher au cœur.
Donc c'est un éloge de la lenteur avant tout, cette école, cette boulangerie pédagogique.
C'est un éloge de la lenteur et du savoir-faire artisanal que notre beau pays a, et on est quand même les seuls au monde grâce au savoir-faire de la baguette de tradition française qui a été reconnue à l'UNESCO. Et c'est les savoir-faire de la baguette. C'est pas la baguette en elle-même qui est reconnue à l'UNESCO, c'est le savoir-faire. Mmh. Et dans le savoir-faire, il y a une notion de temps et de lenteur. Donc oui, en effet, c'est l'apologie de prendre son temps pour faire de bonnes choses.
Vous disiez tout à l'heure que les élèves pourraient passer toute la journée de classe dans votre boulangerie. Est-ce qu'on peut aborder différentes matières en s'intéressant à votre métier ?
Oui, effectivement, il peut y avoir l'alimentation, le bien manger, on peut faire de la science nat, on peut faire de la pratique, hein. Il y a la théorie puis il y a la pratique, on peut mettre les mains dans la pâte, c'est le cas de le dire. Donc on a vraiment tout volé à tout âge, que ça soit les petits de la maternelle qui mettent les mains à la pâte, les jeunes du primaire qui vont apprendre un petit peu de science nat et après le sujet du bon alimentaire pour les collégiens, on en a vraiment pour tous les niveaux et tous les âges.
Bon. Si au passage, ça suscite des vocations, tant mieux, non ?
Oui, pourquoi pas. Et non, mais l'objectif premier n'est certainement pas de trouver les recrues de demain. Mais sachez que tous les jeunes d'aujourd'hui qui ont démarré par un stage ont multiplié leurs chances d'aimer ce métier. Donc, aller à la rencontre du métier aussi. Il est important, nous, en tant qu'artisans, d'ouvrir nos portes et pour pouvoir susciter les vocations. Et sans vous mentir, encore plus dans un métier en tension sur la main-d'œuvre, parce qu'on parle toujours des contraintes de travail, mais pas du plaisir qu'est notre métier.
C'est vrai ça, on parle beaucoup des contraintes dans la boulangerie, c'est un métier difficile, il faut se lever très tôt. C'est autre chose que vous voulez entendre, vous ?
C'est autre chose que je vis. Aujourd'hui, ce que je vis, c'est de la passion. Bien sûr que les contraintes, mais citez-moi un métier sans contraintes, et il y aura peut-être beaucoup de recrues dans ce métier-là. Mais aujourd'hui, le métier de boulanger, le métier de pâtissier, de viennoisier, c'est un métier de vocation. Et autour de la boulangerie, il existe tellement de métiers, c'est toujours réduit au métier de boulanger, de pâtissier. Aujourd'hui, en boulangerie, on arrive à avoir 3 métiers. En pâtisserie, on arrive à avoir au moins minimum 2 ou 3 ou 4 métiers. Et c'est important de pouvoir le montrer, le présenter aux élèves.
Vous êtes en contact, bien sûr, avec l'éducation nationale. Est-ce que vous sentez qu'il y a une forte demande chez les enseignants et enseignantes ?
Ah oui, effectivement, nous travaillons conjointement à l'éducation nationale pour être pré-opérationnel à la rentrée 2025-2026. Et j'ai déjà été contacté par de nombreux chefs d'établissement ou professeurs, instituteurs qui s'intéressent à notre projet qui est effectivement unique pour le coup dans notre département et encore plus dans notre région et même dans tout le sud de la France. Je n'en connais pas d'autres du moins. Voilà. L'engouement est important et j'ai de la demande. Donc j'attends d'avoir tout bien ficelé avec l'éducation nationale pour être bien sûr référencé en bonne et due forme.
Vous avez en mémoire des questions savoureuses d'enfants autour de votre métier, autour de la boulangerie ?
Oui, lorsqu'on voit dans les yeux des petits la magie de leurs questions qui peuvent aller de « et comment le pain y gonfle ?» et « pourquoi le pain il devient doré ?» et « pourquoi le croissant il est tout petit avant de passer au four ?» et « pourquoi la pâte elle colle ?» Il y a tellement d'émerveillement, on est sur un métier de l'artisanat avec un grand A et vous nous donnez de l'eau, du sel, un tout petit peu de sel et du levain et de la farine et on va vous faire une baguette. Donc on est des magiciens, on est des artistes et ça on le voit dans les yeux des enfants.
Au fait, Christophe, qui est donc ce Lucien qui donne son prénom à votre boulangerie ?
Eh bien, Lucien était mon grand-père, qui était agriculteur, donc attaché à la terre. Donc, je suis la 15e génération d'agriculteurs dans ma famille. Donc, j'ai pas choisi cette voie à 100%, même si je garde le blé attaché à mes terres familiales qui produit aujourd'hui la farine de notre boulangerie. Mais Lucien était un modèle de travail, de rigueur, d'amour et un exemple pour moi. Et donc, on a voulu lui rendre honneur en lui donnant le nom de notre boutique et maintenant avec la nouvelle école pédagogique qui va s'appeler l'atelier chez Lucien.
Voilà, boulangerie pédagogique chez Lucien. C'est donc à Saint-Nauphary dans le Tarn-et-Garonne, ouverture prévue à la rentrée de septembre 2025. Merci beaucoup, Christophe Passedat.
Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
À très bientôt, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Et on se plonge à nouveau dans Village. Plus verte la fête, c'est l'un des titres à la une du nouveau numéro de ce magazine, numéro de printemps. Comment la bamboche peut-elle réduire son impact sur la planète ? Bonjour Sylvie Le Calvez.
Bonjour Dorothée.
Directrice de la publication de Village. Alors qu'il s'agisse d'une kermesse d'école, d'une rencontre sportive ou encore d'un festival, tous les événements sont concernés par cette démarche écologique bien sûr.
Oui, on va arriver dans l'époque des fêtes. Effectivement, les beaux jours arrivent et on peut faire des fêtes où on a des gobelets en plastique, tout le monde gère en voiture avec sa propre voiture, mais ça commence à plus être très raisonnable quand même dans le monde dans lequel nous sommes. Et effectivement, on s'est penché sur comment on peut faire mieux, avec quels outils. Alors ça concerne aussi bien la question donc des mobilités, tout le monde va peut-être pas venir à vélo, mais il y a des choses à faire dans ce domaine. L'alimentation lors des fêtes, est-ce qu'on prend localement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on végétalise un peu plus l'assiette, hein? Est-ce qu'on on sort un peu de la traditionnelle grillade frite, entre guillemets? Est-ce qu'on met des toilettes sèches ou pas? À quelles conditions? Comment on gère les déchets? Comment on fait une communication qui soit moins consommatrice de papier? Donc on s'est un peu penché sur tous ces aspects dans ce dossier.
Voilà, Axel Puig qui signe ce reportage dresse un inventaire des bonnes pratiques. De quelle fête, de quel événement avez-vous envie de nous parler en particulier, Sylvie?
Il y en a beaucoup, mais j'aimerais bien qu'on parle d'une fête qui est relativement, entre guillemets, modeste, parce que c'est l'objet de ce dossier, c'est pas de parler des très grands festivals internationaux, même si là aussi il y a beaucoup de choses à faire, et d'ailleurs les grands festivals se mettent aussi à faire attention et à prendre en considération tous ces aspects, mais on peut parler par exemple de ce qui se passe pas loin de chez nous, hein, pas loin de la rédaction, dans l'Orne, avec le Centre Permanent d'Initiation pour l'Environnement, qui organise tous les deux ans la fête des légumes, fête F-A-I-T-E-S, hein, donc c'est effectivement une fête citoyenne dans laquelle on peut aussi une sorte de grand marché en même temps, qui accueille jusqu'à quand même 3000 visiteurs, hein, tous les deux ans, en plein milieu d'un champ, dans un très beau cadre d'ailleurs de la Suisse normande, et qui essaye de, là aussi d'agir, mais ça peut être des toutes petites choses. Par exemple, plutôt que de faire des programmes à donner à chacun à l'arrivée, eh bien ils font des grands panneaux avec des palettes ou avec du mobilier qui est chiné dans les recycleries. Et puis ils font très attention, par exemple, quand ils font des affiches, à se dire, ben, on va jamais mettre de grands aplats de couleurs pour imprimer, parce que ça dépense plus d'encre. Donc ça paraît comme ça des détails, mais en fait si on fait attention sur chaque chose, y compris avoir un petit lot sur place parce qu'on est venu à vélo ou à pied, c'est ce qu'ils font, eh bien c'est vraiment un plus. Et si tout le monde multiplie ça sur tous les festivals, d'ailleurs on voit de plus en plus de micro-festivals plutôt que de grands festivals qui sont quand même beaucoup moins consommateurs d'énergie et de déchets, on arrive quand même à des résultats probants, quoi.
L'enjeu pour les événements, c'est aussi de réduire la facture d'électricité, Sylvie.
Tout à fait. Alors, il y a des choses assez simples. On peut limiter le nombre et la puissance des spots. Les techniciens savent tous ça. Mais de plus en plus, on voit des festivités qui se déroulent un peu plus tôt dans la journée. On avance de quelques heures les festivités. Ben, ça permet de moins éclairer et puis de consommer moins. Il y a aussi parfois des fours solaires sur place.
Voilà, une boum l'après-midi plutôt qu'une fête le soir.
Par exemple, il y a encore le soleil. C'est très agréable aussi.
Quoi de neuf du côté de la gestion des déchets dans les festivals?
Eh bien, ça devient une question importante, et on voit par exemple à la ferme de Guérande, hein, quand ils font leur fête de la biodiversité, les déchets alimentaires sont donnés aux cochons, par exemple. Il y a aussi des collectivités qui mettent en place des collecteurs mobiles, et il y en a d'autres qui donnent ça aux poules, hein, d'autres collectivités ou d'autres événements. Et puis c'est important parce que selon l'ADEME, hein, l'Agence de la maîtrise pour la maîtrise de l'énergie, un événement de 5000 personnes, ça génère à peu près 2,5 tonnes de déchets et 1000 kilowatts d'énergie. Alors, 1000 kW d'énergie, ben, c'est la consommation d'un foyer pendant 2 mois.
Plus verte la fête, c'est donc à lire dans le nouveau numéro du magazine Village qui est en kiosque depuis quelques jours. Merci beaucoup Sylvie.
Merci Dorothée.
Et merci à Ici Normandie pour la liaison en duplex. Je vous rappelle que le département de l'Oise sera bientôt à l'honneur dans les carnets. Vous pouvez nous écrire pour signaler des initiatives réjouissantes et des gens géniaux dans ce département des Hauts-de-France. Merci à l'équipe des carnets de campagne. Sophie Hoffmann, Lila Rapoport, Jérôme Ragano.